With allegiance to our founders and a heart full of love for America, today I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment.
Donc, c'était Nancy Pelosi, la leader, la présidente de la Chambre des représentants, qui est dominée par les démocrates, qui demandait qu'on commence à écrire la mise en accusation du président Trump.
Donc, c'est fait. C'est fait de façon formelle, cette demande-là. Et quand on parle de demande qui vient de la présidente de la Chambre, c'est plutôt un ordre. Donc, disons-le clairement, ça va être fait. À ce stade-ci, c'est une question de temps. Ça va être quelques jours, quelques semaines. On s'attend vraiment dans les rangs démocrates à ce que le président Trump soit mis formellement en accusation d'ici la fin de l'année. Donc, la Chambre, dans son entier, vote pour l'impeachment d'ici la fin 2019. Donc, on aurait un procès au Sénat au début 2020. Il y a des assez bonnes chances, en fait, que ça soit conclu relativement rapidement, cette affaire-là, parce qu'il n'y a pas grand monde à Washington actuellement qui a vraiment un intérêt à ce que ça traîne éternellement. Ce qui est assez remarquable, Patrick, c'est qu'on s'en parlait il y a 3 mois de cette affaire-là, que ça risquait de prendre la tournure suivante, c'est-à-dire la Chambre vote pour l'impeachment, le Sénat vote pour acquitter le président. 3 mois plus tard, on est encore directement sur les rails que bien des gens disaient qu'on allait suivre.
Mais il y a une théorie, en fait, il y a une autre avenue qui est poussée par des voix là, aux États-Unis, c'est tu le mets en accusation, tu continues à enquêter, et si tu trouves d'autres choses, tu le remets en accusation pour d'autres choses.
Effectivement, ça se ferait. Il y a pas, parce que c'est un bon point ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent est-ce qu'il y a un échéancier ou quel est l'échéancier? Il n'y a pas techniquement d'échéancier. Ça pourrait, encore une fois, d'un point de vue purement technique, là, continue pendant des mois et des mois jusqu'au scrutin de 2020. Là.
Vois-tu un scénario où, oui, il y a une mise en accusation, oui, il y a un procès au Sénat, et si, écoute, la tendance se maintient, comme le Sénat est dominé par le parti de Donald Trump, il ne sera pas trouvé coupable, mais vois-tu un scénario où Donald Trump pourrait bénéficier d'avoir été soumis à une procédure d'impeachment?
Potentiellement dans la mesure où le procès au Sénat pourrait servir à éclabousser les démocrates. Voici comment les républicains, une fois que c'est rendu au Sénat, parce qu'ils sont majoritaires, vont contrôler le processus. Donc, ça va être eux qui vont déterminer qui on invite, qui on n'invite pas. Donc, si on invite des gens comme celui dont on va parler dans quelques instants, Joe Biden, il y a des risques potentiels du côté démocrate. Donc, indirectement, par ricochet, si on veut, ça pourrait potentiellement aider Donald Trump. Mais à l'heure actuelle, honnêtement, là, après 3 mois, ça avait semblé clairement avoir fait mal à Trump initialement. Là, ça semble être assez stable. Donc, comme à peu près tout le reste, écoute, on est dans un monde où tout est instable, mais en même temps, tout est stable. On est stable dans cette instabilité.
En parlant de Mme Pelosi, as-tu vu la scène où elle s'est fâchée face à des journalistes?
C'est quelque chose. Veux-tu la décrire?
Oui, vas-y.
Ben écoute, elle est sur le point de partir. Elle a fini son point de presse. Il y a un journaliste qui lui demande « Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous êtes en train de faire tout ça par haine du président? » Elle s'arrête. Elle retourne au micro. Elle dit « Je ne déteste personne. Je n'haïs personne. Je suis catholique. » Écoute, c'était quelque chose.
Et elle a même dit « Écoutez, le mot haine, là, vous utilisez pas ça dans la même phrase que moi. »
Exact.
« Et je prie pour le président. »
On sentait.
Je t'avoue que même si elle avait l'air très, très sincère, écoute, c'était très difficile à croire.
Tu penses pas qu'elle va se mettre à genoux dans son lit ce soir en priant pour Donald Trump?
Peut-être qu'elle est vraiment très, très animée de la foi catholique. OK, toute une journée pour Joe Biden aussi.
Écoute, on en parlait il y a un instant. Le type est en train de participer à une rencontre citoyenne complètement anodine dans un petit comté rural du nord-est de l'Iowa. Rien de spécial jusqu'à ce qu'un type, un homme, un électeur, relativement corpulent, relativement âgé, se lève et lui pose une question sur quoi? Sur son fils Hunter. Et là, Biden, en bon français, pète une coche. Commence en interrompant, en fait, l'électeur, le traite de menteur, de sale menteur. Et après ça, les deux s'échangent la balle pendant plus d'une minute, incluant lors de ce moment-ci qu'on va écouter ensemble.
And you want to check my shape, man? Let's do push-ups together, man. Let's run. Let's do whatever you want to do. Let's take 19 push-ups.
Tu veux me défier? On va faire des push-ups ensemble, on va aller courir ensemble, on va faire un test de QI ensemble. C'est le candidat présidentiel qui mène présentement la course démocrate qui s'adresse à un électeur.
Écoute, moi je regarde ça, puis pour moi, ça, une réponse comme ça, c'est du Trump.
Et c'est ce qui est remarquable dans ce que tu viens de dire? C'est que quelques mois, Joe Biden avait défié Donald Trump à aller se battre dans une cour.
C'était pas pendant la campagne électorale?
C'était après ça. Okay. Il y avait eu un épisode très semblable, effectivement, pendant la campagne électorale de 2015-2016. Donc, et à ce moment-là, il y en a plusieurs qui ont comparé l'un à l'autre en disant, effectivement, c'est du Trump pur et dur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'extrait spécifique qu'on vient d'écouter, ça fait revenir à la surface des souvenirs de 1900. 87, alors que M. Biden menait sa première campagne présidentielle. Et là, il était au New Hampshire, avait été confronté par un autre électeur. Et qu'est-ce qu'il avait offert comme réponse? On écoute.
I think I probably have a much higher IQ than you do, I suspect.
J'imagine que j'ai un QI encore beaucoup plus élevé que le vôtre.
Mais quand je te dis que c'est du Trump, Trump, c'est souvent... rappelle-toi quand il s'est vanté d'être un génie très stable.
Oui.
Il parle souvent de son QI et du QI des autres. Sincèrement, pour moi, c'est la même façon de baisser la barre puis de devenir un peu plus proche du voyou que du président.
Maintenant. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, Donald Trump, souvent, quand il le fait avec des adversaires. Là, Joe Biden l'a fait envers un électeur. Et je rajoute ceci... Plus tard, il est allé le traiter d'obèse. Il a utilisé le mot « fat ». Et comme c'était pas assez...
Il l'a « fat-shamé », comme on dit.
Il l'a « fat-shamé », exactement. Et le « close », la conclusion de cette affaire-là, c'est que le type s'est rassis en disant « je ne vais pas voter pour vous ». Biden a répondu du tac au tac « t'es trop vieux pour voter pour moi de toute façon ». On rappelle que M. Biden a 77 ans. C'était quelque chose. Et le fait, écoute, je conclue rapidement là-dessus. La journée avait bien commencé pour lui. Il venait de se faire appuyer par John Kerry. L'ancien candidat présidentiel du parti en 2004, t'as pas l'air enthousiaste.
Ben là, un gars qui a pas réussi à battre George Bush en 2004 qui t'appuie. Combien de kilométrages tu peux faire avec ça, je sais
pas. On verra.
Merci beaucoup, Raph. On se reparle demain. Au retour, c'est la grande guignolée des médias aujourd'hui. Et Jean-Philippe Dion, son porte-parole, va venir nous en parler.